Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, en ce dimanche 14 février, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal, suivi d'un commentaire politique. Le message de la résistance irakienne au peuple de Bahreïn. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission, merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, Madame, Monsieur, coronavirus, 60% des Iraniens seront vaccinés d'ici fin de l'automne 2021. La ligne maritime reliant Bandar Abbas au port syrien de Latakia entre en service avant fin mars. Et puis les talibans mettent en garde l'OTAN contre la poursuite de la guerre en Afghanistan, appelant l'Alliance occidentale à retirer complètement ses troupes du pays. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. 60% des Iraniens seront vaccinés d'ici la fin de l'automne 2021, a déclaré le président du comité scientifique de la lutte contre le coronavirus. Mostafa Ronei a déclaré dans une interview avec le quotidien Jame Jam, je cite, « Environ 160 millions de doses du vaccin du Covid-19 sont nécessaires pour vacciner le pays. » Chaque dose de vaccin Sputnik V coûte au gouvernement iranien de 4 à 5 dollars. 70% des Iraniens seront vaccinés d'ici la fin de l'automne 2021, a-t-il dit. En ce qui concerne le refus de l'Iran d'utiliser le vaccin américain Pfizer, le président du comité scientifique de la lutte contre le coronavirus a précisé « Pfizer a refusé de nous donner notre médicament pré-acheté contre le cancer ». Une des raisons pour lesquelles l'Iran n'a pas acheté le vaccin Pfizer est que ce vaccin a besoin d'une chaîne du froid de 80 degrés minus Celsius pour la transmission et le stockage, ce qui est un très gros défi pour nous. En outre, le vaccin Pfizer, basé sur des molécules immunitaires, est une nouvelle génération de vaccins qui n'a pas encore atteint son stade clinique complet et nous ne pouvons pas être sûrs de ses effets secondaires. Il a fallu attendre donc que ce vaccin termine au moins la troisième phase clinique actuellement en cours et ensuite se prononcer, a-t-il conclu. La ligne maritime reliant Bandar Abbas au sud de l'Iran au port syrien de Latakia entre en service avant fin mars. Vers la fin mars de cette année, la ligne maritime Bandar Abbas-Latakia entrera en service, a déclaré ce vendredi le chef de la chambre de commerce mixte Iran-Syrie, Keivan Kashefi. Selon un accord bilatéral, une fois par mois, des cargos transporteront régulièrement des marchandises depuis l'Iran vers la Syrie et la première expédition sera envoyée au port de Latakia vers la fin mars, a déclaré Keivan Kashefi. Il a ajouté que pour lancer cette ligne, les coordinations nécessaires ont été établies avec le Centre de développement des relations économiques Iran-Irak-Syrie et l'Organisation des transports maritimes de la République islamique d'Iran. Si nécessaire, cette compagnie maritime est censée envoyer des marchandises à Latakia une fois tous les 15 jours, mais pour commencer, nous exporterons régulièrement vers la Syrie une fois par mois, a-t-il fait savoir. L'actualité régionale, c'est également l'Afghanistan. Le ministère afghan des Finances a déclaré qu'une délégation avait été envoyée pour enquêter sur la cause du feu massif de samedi dans une zone douanière près de la frontière iranienne. Les responsables ont déclaré que l'incendie dans la zone frontalière d'Islam Kala avait été maîtrisé avec l'aide des pompiers iraniens tôt dimanche. L'incendie a détruit au moins 100 pétroliers gaziers, faisant environ 20 blessés. Aucune blessure ni dommage n'a été signalé du côté iranien de la frontière. On estime que l'incendie a causé des millions de dollars de pertes. Il a également endommagé l'infrastructure électrique de la province de Herat, laissant une grande partie de la région sans électricité. L'incident a été déclenché par l'explosion d'un pétrolier, dont la cause reste incertaine. Sachez d'autre part que les talibans ont mis en garde l'OTAN contre la poursuite de la guerre en Afghanistan. Je vous le disais en titre, appelant l'Alliance occidentale à retirer complètement ses troupes du pays. Dans un communiqué, les talibans ont déclaré que toute personne cherchant à prolonger la guerre et l'occupation sera tenue pour responsable. Les talibans affirment que le conflit n'est ni dans l'intérêt de l'OTAN ni dans l'intérêt du peuple afghan. Les ministres de la Défense de l'OTAN se réuniront la semaine prochaine pour discuter de la poursuite de la présence de l'Alliance en Afghanistan. L'ancien président américain Donald Trump a conclu un accord avec les talibans l'année dernière qui oblige les troupes étrangères à quitter l'Afghanistan d'ici mai 2021. L'administration du nouveau président Joe Biden a cependant déclaré qu'elle réexaminerait l'accord, accusant les talibans de ne pas respecter leurs engagements de réduire la violence. Au Yémen, la malnutrition aiguë menace la moitié des enfants de moins de 5 ans en 2021, selon l'ONU. La FAO, l'UNICEF, l'OPAM et l'OMS avertissent que la crise humanitaire continue d'avoir de lourdes conséquences pour les enfants. Face à cette situation désastreuse et le nombre croissant des cas de malnutrition infantile dans le pays, les médecins yéménites se sont dits également déçus et incapables. Quatre organismes des Nations Unies ont averti que, selon les estimations, près de 2,3 millions d'enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition aiguë au Yémen en 2021. Parmi eux, 400 000 enfants sont menacés par la malnutrition aiguë sévère et risquent de mourir s'ils ne reçoivent pas de traitement de toute urgence. Des années de la guerre menée par l'Arabie saoudite contre le pays en blocus et de déclin économique, la pandémie de Covid-19 et un grave manque de financement de l'action humanitaire accablent les populations exténuées et l'insécurité alimentaire augmente. De nombreuses familles sont contraintes de diminuer la quantité ou de sacrifier la qualité de la nourriture qu'elles consomment, voire les deux dans certains cas. L'action militaire de Riyad a poussé le Yémen dans ce que l'ONU a appelé la pire crise humanitaire du monde. Des dizaines de milliers de Yéménites sont morts depuis que l'Arabie saoudite a lancé la guerre dévastatrice contre son voisin du Sud en mars 2015. Sachez également que les Bahreïnis organisent des manifestations dans tout le pays à la veille du 10e anniversaire du soulèvement populaire contre le régime d'Al-Khalifa au pouvoir. Les manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes et villages près de la capitale Manama. Les gens ont appelé à la fin des violations des droits de l'homme et à la libération des prisonniers politiques. Pendant ce temps, le plus haut dignitaire religieux de Bahreïn, Cheikh Issa Rassem, a déclaré que le mouvement d'opposition dans le pays ne lâcherait pas tant que la victoire finale n'aurait pas été remportée face à la répression du régime. Cheikh Issa Rassem a fait ses commentaires dans un discours diffusé en direct de la ville iranienne de Qom. Il a déclaré que le soulèvement cherchait à rectifier les méfaits du régime d'Al-Khalifa. Les Bahreïnis organisent régulièrement des manifestations depuis le début d'un soulèvement populaire à la mi-février 2011. Cependant, le régime a violemment réprimé les manifestations et a arrêté, blessé et tué des milliers de personnes. Pour le rappel, notre commentaire d'aujourd'hui est consacré aux évolutions bahreïnies. On termine avec la Chine qui a vivement réagi aux inquiétudes affichées par Washington sur l'enquête de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en Chine, sur les origines du Covid-19. Pékin a accusé Washington de nuire à la coopération multilatérale entre les deux pays et même de saper la mission de l'OMS ces dernières années. Pékin a également exhorté Washington à cesser de pointer du doigt la Chine et les autres pays qui ont soutenu l'OMS pendant la pandémie. Pékin n'a pas d'ailleurs manqué de saluer la décision de Washington de se réengager avec l'OMS. Il a cependant appelé les États-Unis à se concentrer dans cette situation de crise sanitaire sur le respect des consignes et des règles sanitaires au lieu de viser d'autres pays. Ces réactions interviennent après que le conseiller à la sécurité nationale américain, Jack Sullivan, eut appelé la Chine à rendre disponibles les données des premiers jours de l'épidémie de COVID-19. Il s'est dit préoccupé par la manière dont les conclusions de l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé avaient été communiquées. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Le message de la résistance irakienne au peuple de Bahreïn. Le porte-parole du mouvement irakien Al-Nujaba a déclaré que la résistance irakienne était prête à aider le peuple bahreïni à sortir de l'impasse et à mettre ses expériences à sa disposition. S'exprimant à l'occasion de l'anniversaire de la révolution populaire bahreïni, Nasr al-Shamari, le porte-parole d'Al-Nujaba a déclaré que la résistance irakienne s'est engagée à ne jamais se dérober à la question bahreïnie et mettra toutes ses ressources et expériences à la disposition du peuple de Bahreïn. Al-Shamari a déclaré dans un communiqué que la complicité des oppresseurs et des arrogants contre le peuple yéménite n'a apporté que la foi et que peut-être un petit nombre de personnes en vaincra un grand nombre. Une vérité qui peut se réaliser également pour le peuple patient et zélé de Bahreïn, a-t-il dit. Dans chaque rue de Bahreïn, on entend cet appel. Déployez vos astuces, mais vous ne pouvez pas éliminer ce qui a été gravé par sang, patience et résistance, ajoute le communiqué d'Al-Nujaba. Al-Shamari a critiqué la communauté internationale pour son silence envers la répression de la révolution bahreïnie. La conscience internationale ferme les yeux et les oreilles et ne sent pas l'odeur du sang du peuple bahreïni. Même si elle le sent, elle préfère l'odeur du pétrole. Vos frères de la résistance islamique irakienne ont sympathisé avec vous dès le premier jour. Nous saluons votre patience et votre combat et nous en sommes fiers. La résistance irakienne qui a pu vaincre les occupants américains et éliminer le terrorisme de Daesh et du wahhabisme s'est engagée à ne pas se dérober en aucune façon à la question de Bahreïn et elle vous remettra ses expériences et moyens, souligne toujours Al-Shamari dans son communiqué. Cela intervient alors qu'un centre bahreïni des droits de l'homme a annoncé l'augmentation des arrestations dans le pays à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution bahreïni. L'Institut bahreïnien pour le droit et la démocratie, basé à Londres, rapporte qu'au moins 18 000 adultes et 11 enfants et adolescents ont été arrêtés à la veille du 10e anniversaire de la révolution bahreïnie. Le rapport indique que la plupart de ces enfants sont détenus depuis une semaine et que ces mesures semblent viser à empêcher les manifestations populaires à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution bahreïnie. Selon le site internet Arabie 21, les autorités bahreïniennes ont annoncé vendredi avoir détenu deux adolescents de 13 ans dans un centre de soins pour enfants et adolescents jusqu'à leur audience et qu'une action en justice appropriée serait bientôt engagée contre eux. Des cabinets d'avocats bahreïniens ont également signalé que les responsables bahreïniens avaient déployé un grand nombre de forces de sécurité avant le 14 février, en particulier dans les villages chiites. 10 ans après la révolution populaire à Bahreïn, L'oppression ciblée s'est accrue et l'oppression politique a pratiquement empêché toute action pacifique et le droit à la liberté d'expression, a déclaré Amnesty International dans un communiqué.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Aujourd'hui, le mercredi 10 février marque le 42e anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Les Iraniens ont célébré cet événement important dans l'ensemble du territoire du pays. La crise sanitaire due au coronavirus oblige cette année les rassemblements de masse des Iraniens avaient été remplacés par en fait des cortèges automobiles, moto, vélo, bicyclette, atterrant également d'entre d'autres villes et villages du pays. Les véhicules, surtout à Téhéran et dans d'autres villes également, étaient décorés de slogans ainsi que des images de l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique et du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, du général martyr Soleimani. Et à Téhéran, des cortèges de voitures, de motos et d'autres véhicules ont démarré à partir de 12 points différents, traversant les rues pour atteindre l'emblématique place Azadi, de la liberté. Et il y avait des journalistes iraniens et également certains journalistes étrangers qui ont couvert cet événement qui marque, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, le 42e anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission Le Débat deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Alsace un juriste français spécialisé des questions internationales, Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et bonjour à votre invité.
C'est un plaisir partagé. Et le trop invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Chamy, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Norostin. Bonjour à tous les auditeurs. Et bien sûr, mes grandes salutations à Maître Chamy.
Monsieur Dortiguier, vous avez suivi de près aujourd'hui cette célébration par les Iraniens cet événement qui marque le 42e anniversaire de la révolution islamique d'Iran. Quelle était votre impression? Quelle est votre évaluation sur ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce mercredi, à Téhéran et dans d'autres villes et des villages iraniens, s'il vous plaît?
Eh bien, d'abord, c'est avec une très grande émotion que j'ai vu justement ces manifestations qui ont bravé, bien sûr, tous ces inconvénients, toutes ces contraintes qui sont imposées au monde par cette question sanitaire. Et donc, cela nous a permis de montrer la grande influence jusque dans à Téhéran et dans d'autres localités, affluence et présence, disons, du peuple. Mais c'est une sorte de auto-manifestation, si je puis dire, de c'est une auto-affirmation, comme vous direz, oui, de la présence du peuple iranien, le peuple au sens latin ancien, c'est-à-dire constitué en unité politique, et bien sûr lié à cette formule, grande formule de l'imam Khomeini, qui était celui de la République islamique. Il disait bien islamique au sens très large du terme, celui d'une grande civilisation islamique, à laquelle il appelait, bien sûr, les peuples musulmans, mais également les autres peuples aussi, à s'unir, car il voulait que ce ne soit pas, selon sa formule, quelque chose qui soit ni de l'Est, ni de l'Ouest, c'est-à-dire ni inspiré par le communisme qui était alors, à cette époque-là, grand, et ni le système américain de l'Est, de l'Ouest, mais il voulait qu'il y ait une sorte de civilisation qui reposa sur la spiritualité. La spiritualité au service de la politique au service de la spiritualité. C'est pour ça que nous sommes très émus, cela fait déjà 42 ans, d'avoir pu assister d'abord à l'éclosion de cette formule politique, et nous pensons que déjà depuis 42 ans, eh bien celle-ci a tenu bon contre tous les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur.
Maître Chami, selon M. Dortillier, les Iraniens ont affiché une fois de plus leur fidélité, leur loyauté à ce chemin tracé par l'imam Khomeini, à cette formule laissée en héritage par l'imam Khomeini, qui est celle de la République islamique. Votre lecture, s'il vous plaît.
Vous savez, les révolutions en général, c'est un acte d'émancipation. Parce que quand on se révolte contre un régime qui règne, ce n'est pas juste un changement de mode, comme si on devait changer de costume ou de chemise. On veut changer profondément la société. On veut changer profondément les institutions qui régissent cette société-là. Et bien entendu, il y avait d'autres choix qu'avait le peuple iranien. Il pouvait partir dans le sens du socialisme, il pouvait partir dans le sens de l'ultralibéralisme ou de ce qu'on appelle les démocraties occidentales. Et finalement, ce qu'il a emporté et ce qui continue d'exister, c'est évidemment cet esprit bicéphale, c'est-à-dire il y a la démocratie qui s'exprime à chaque élection, la démocratie qui s'exprime à chaque expression populaire par rapport à tel ou à tel événement, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national. Mais en parallèle, il y a les institutions qui sont en quelque sorte les fondations intellectuelles et spirituelles de ce système. Et ce régime bicéphale, et quand je dis régime, ce n'est pas un terme péjoratif, au contraire, ça veut dire qu'il y a une organisation, il y a un ordre qui est structuré, et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, il y a l'aspect spirituel qui a été le parallèle de ce que la démocratie classique donne aujourd'hui dans les sociétés modernes. C'est-à-dire, il y a un œil sur les fondations et sur les racines et surtout sur l'histoire, mais également il y a un œil sur la modernité, sur la projection vers l'avenir, sur la capacité du peuple iranien de s'exprimer et de s'émanciper sans les diktats d'un seul homme, qui était le cas à l'époque du Shah. Certains commentateurs dirait oui, mais c'est pas le régime parfait. Eh ben, allez, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des régimes parfaits? Il n'y a pas de régime parfait. Il y a des régimes qui tendent à assurer les attentes, les aspirations et les visions d'une population. Et il me semble que le peuple iranien a fait ce choix-là de manière profonde, de manière réfléchie. Évidemment, il a fallu qu'il y ait un guide, qui était le rôle de l'imam Khomeini, mais également les autres institutions qui joueront un rôle fondamental, et l'arrivée de l'imam Khomeini, qui est en quelque sorte dans les sillons de l'imam Khomeini, et toujours avec la même spiritualité, avec toujours la même vision pour la société iranienne. Et c'est cet amalgame, cette composition, cette architecture, si j'ose dire, politique et sociétal et spirituel, qui aujourd'hui compose ou qui donne l'expression de la société iranienne et du peuple iranien. Et ça devient d'un côté un exemple pour les pays qui ont vocation et qui ont envie de s'émanciper, mais en même temps, c'est le point critique pour les Occidentaux, parce que pour eux, c'est le système parfait. La démocratie occidentale, c'est le système parfait, c'est-à-dire qui peut laisser place, d'après l'expérience, à l'oligarchie, à des décisions qui peuvent être contre-productives ou anti-populaires ou anti-intérêt de la population. Et on a constaté ça aussi bien sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan structurel, sur le plan sociétal. Il y a des changements dans les sociétés qui s'opèrent et qui ne sont pas toujours acceptés, en tout cas compris par les sociétés. Et c'est en quelque sorte cette contradiction que traversent les sociétés occidentales, et c'est la raison pour laquelle elles continuent de critiquer le système iranien, lequel continue son bonhomme de chemin, si j'ose m'exprimer ainsi, contre vent et marée, et ça fait 42 ans que ça dure. Et à mon sens, l'essence de ce régime, c'est la révolution. Et tant que cet esprit révolutionnaire continue, eh bien évidemment, cet esprit continuera, et l'évolution et l'émancipation davantage du peuple iranien se poursuivront.
Merci beaucoup. Cela de dur 42 ans, comme l'a dit Maître de Chami. Et lorsque Maître Chami était en train de s'exprimer, vous venez de découvrir les images qui remontaient à 1979, qui marquaient en fait l'arrivée de l'imam Khomeini en Iran après 40 ans, excusez-moi, après 15 ans d'exil, des images qui en fait parlaient d'elles-mêmes, et des images qui en fait concernaient la célébration de la décade de l'aube marquant et l'anniversaire de la révolution islamique, l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Et M. Dortiguet, Maître Chami vient en fait d'évoquer une autre caractéristique qui, un autre point plutôt, qui caractérise la révolution islamique d'Iran, la durée de la République islamique d'Iran, et celle du rôle qui concerne en fait le rôle et du leadership en Iran, celui de l'imam Khomeini et également celui de l'honorable Ayatollah Khamenei. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, ceci en effet est très important. Je remercie bien sûr Maître Chami de l'avoir publié ainsi, parce que ce dualisme, vous savez, le dualisme est une notion qui est attachée traditionnellement en philosophie à l'Iran. Vous voyez, que ce soit en religion, que ce soit également, c'était un esprit du peuple, un génie de la nation, qui fait que ce dualisme s'est exprimé dans le rapport entre deux autorités, c'est-à-dire l'autorité civile, l'autorité qui est fondée, disons, on peut dire, sur la liberté d'agir, la liberté de décider, celle qui est, disons, soutenue par le peuple comme institution politique. Et ensuite, il y a l'autre, c'est-à-dire un principe d'ordre, qui est un principe, disons, profondément lié à quelque chose qui dépasse la nature humaine, mais dont la nature humaine a besoin, c'est-à-dire une référence à des principes qui ne peuvent pas changer, des principes immuables, qui sont des principes de moralité, qui chez nous, bien sûr, sont vraiment, véritablement réduits à néant aujourd'hui. Et ces principes-là, qui est un principe religieux du reste, et ces principes politiques doivent s'harmoniser par la distinction justement de deux personnes, de personnes qui est élue par le peuple, qui est celle du président de la République, et ensuite celle que la position qu'occupe l'Ayatollah Khamenei, donc celle du guide de la révolution. C'est-à-dire, ce guide est chargé, disons, comme ce que aurait pu faire autrefois chez nous le Sénat, par exemple, les sénateurs, les anciens, par rapport aux députés, c'est-à-dire conserver les principes, voir si ce qui était décidé était conforme à des principes, non pas des principes politiques, mais des principes de vie, des principes, disons, fondamentaux. Ce dualisme existait autrefois dans nos sociétés. Vous aviez un pouvoir sacré qui était assuré par la religion, l'Église, etc. Que ce soit, d'après les régimes politiques en Europe, ça variait selon les confessions. Mais il y avait, en Allemagne, vous avez par exemple encore, je me permets de prendre cet exemple, une absence de distinction entre l'Église, les églises, les confessions et la vie politique de l'État. Il n'y a pas de séparation comme chez nous en France. Où chez nous, il y a une ignorance, voyez-vous, des devoirs religieux, alors qu'en Allemagne, jusqu'à présent, on considère que l'Église ou les confessions ont un rôle social, une finalité dans la société. Je dis ceci car ceci n'est pas très bien aperçu. Nous avons l'Alsace, par exemple, chez nous, qui vit toujours, que connaît Maître Chaly, vit en partie, disons, sur ces traces-là. Eh bien, l'Iran a montré, disons, pendant quand même donc, ces 42 ans, que ceci, qu'il est besoin, disons, qu'une haute autorité, autorité morale, profondément morale, enracinée dans les mœurs du peuple, c'est ça qui est très important, ça que signifie la morale, puisse, disons, décider si tel ou tel mouvement d'humeur, par exemple, ou volonté, par exemple, est juste ou non. C'est-à-dire que nous avons, disons, dans la vie même, nous avons ce dualisme, nous avons les inspirations de notre volonté, et ensuite il y a la réflexion, bien sûr, qui décide, qui juge si notre chemin est juste ou non. C'est pour ça qu'il y a toujours eu un pouvoir religieux à côté d'un pouvoir civil. Je dirais que l'Iran, je fais appel non pas à l'Iran de 1979, mais l'Iran très ancien, a enseigné ceci au monde. Il faut le dire, je parle comme ancien professeur de philosophie, c'est Platon le dit, Platon célèbre d'ailleurs cette civilisation ancienne iranienne, justement, qui était un modèle pour les Grecs, pour beaucoup de Grecs, contrairement à la caricature qu'on donne aujourd'hui, où l'on veut opposer les États les uns aux autres. Voilà, je dois dire donc que cette révolution était moderne, nouvelle, bien sûr. Elle tranchait sur l'espèce d'atmosphère maçonnique, voyez-vous, qui était le résultat de la défaite, enfin, de la victoire des vainqueurs après les deux guerres mondiales. Et en fait, c'était moderne, mais c'était en même temps très ancien. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a, là, mon dernier mot, un secret de la durée de la République islamique d'Iran, car elle répond quand même, elle répond, à quelque chose qui est profondément conforme à la nature des hommes, à la nature des choses, et je me permets de dire, bien sûr, à la volonté divine. Alors que d'autres partis politiques en Orient, que ce soit le Baasisme ou autre, que je ne critique pas, mais que je ne fais que constater, ont fleuri souvent, mais se sont fanés. Parce que justement, ce sont peut-être des systèmes qui ont leur légitimité, mais n'ont pas de racines profondes. Mmh. Et la racine profonde, vous savez, c'est quand même la racine de la foi. C'est la racine qui fait justement affronte la mort et échappe à la mort.
Maître Chaly, est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme M. Dortiguet, que le secret de la durée de la révolution islamique de 1979 s'explique par le fait qu'elle a des racines profondes?
Un pays, de toute façon, sans racines n'existe pas. Il peut toujours se projeter dans l'avenir, mais c'est comme un arbre, vous savez, l'arbre peut avoir des branches, peut avoir une grandeur pour monter très haut. Mais si vous n'avez pas de racines, bien entendu, vous finissez par tomber. Et c'est le problème de beaucoup d'arbres qui ont d'ailleurs les racines très, très superficielles, pour ne citer que les marronniers. Un État, une société, un pays, une nation ont besoin de s'enraciner dans l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut quand même avoir un regard sur l'actualité en profitant de cette occasion. Vous constaterez à travers tous les pays qui ont été ravagés par la guerre, que ce soit la Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan, la Libye, il y a eu systématiquement et méthodiquement une destruction de patrimoine, une destruction de leur histoire, il y a une destruction de ce qui fait que ces pays ont pu connaître des civilisations au fil des siècles. Pourquoi ? Parce que certains pays ont le mal de cette civilisation, parce qu'ils n'en ont jamais eu. C'est des pays relativement récents qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de profondeur dans la civilisation ancienne, dans la civilisation de l'univers et du monde. Et évidemment, ils préfèrent se débarrasser de ces traces, comme ça, ils se mettent sur le plan civilisationnel au même niveau que tout le monde, en disant « notre civilisation est moderne et la modernité l'emporte sur le reste et tout le reste doit s'effacer ». Et aujourd'hui, l'Iran brille justement par la profondeur de sa civilisation. On est à plus de 4000 ans avant Jésus-Christ, mais en même temps, il y a une projection dans l'avenir, puisque vous constatez, je dirais, vous êtes au premier plan pour le constater, la vision sur l'avenir, aussi bien sur le plan scientifique, sur le plan médical, sur le plan culturel. Il y a une volonté profonde au sein du peuple iranien que j'ai pu côtoyer à maintes et à maintes reprises, que j'ai pu rencontrer à maintes et à maintes reprises. Il y a une richesse exceptionnelle, mais en même temps, il y a ce rêve de se projeter dans l'avenir. Et c'est ces deux pôles qui font que l'Iran est ce qu'il est. C'est une sorte de ligne qui commence presque dans l'éternité et qui partira vers l'éternité, c'est-à-dire dans les profondeurs de l'histoire, et qui ira jusqu'à la fin du monde pour se maintenir et faire que sa voix continue d'être écoutée et que son peuple continue de s'exprimer avec ses richesses, avec sa civilisation, avec son patrimoine, avec sa culture. Et tout cela fait que l'Iran est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord qui fait peur et en même temps qui donne envie et de rêver et de s'en inspirer et d'avoir de la tendresse et de l'affection pour ce pays et pour cette population.
Merci infiniment, Maître Deschami, pour votre commentaire, pour vos explications. Je vous laisse et je vous dis bon rendez-vous juridique, Maître Deschami.
Vous.
Monsieur Tortillet, vous avez dit que voilà, le secret de la durée de la continuité de la révolution islamique de 1979 s'explique par ses racines profondes. Maître Chami évoque également cette volonté profonde chez des Iraniens, chez des responsables iraniens, cette projection vers l'avenir. Selon Maître Chami, ça aussi, ça compte. Est-ce de votre avis également?
Écoutez, je vous ai mal entendu, monsieur Norostine. Excusez-moi,
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez?
Je vous entends maintenant, oui.
Monsieur Tortillet, vous avez en fait, pour expliquer la continuité, la durée de la révolution islamique, vous avez fait allusion à ces racines profondes de l'Iran. Et Maître Chami vient d'évoquer un autre point, celui de la volonté profonde chez des Iraniens, cette volonté en fait de s'élancer, de se projeter vers l'avenir, cette projection sur l'avenir. Est-ce votre avis également, Monsieur Dortiguet?
Oui, en effet, ceci est très très juste ce qu'a dit Maître Chami, et voici pourquoi on peut l'appliquer à ce que j'appellerais, selon une formule qui est très française, puisque c'est la formule de la philosophie de Descartes, j'ai eu la philosophie cartésienne. Il y a un rapport entre l'entendement, l'esprit qui est limité, toujours, et la volonté qui est illimitée. Et je crois qu'il y a justement, dans la distinction des deux pouvoirs en Iran, et qui s'exprime justement dans l'activité populaire, l'activité nationale, justement ce rapport qui est bien limité, bien délimité, bien tranché, mais bien désigné, bien individualisé, si je peux dire, entre d'un côté l'esprit, bien sûr, qui est obligé toujours de lutter, d'élargir ses limites, et en même temps, il y a une source de renouvellement de force permanente, qui est cette volonté. La volonté, c'est d'ailleurs ce qui permet aux martyrs de donner sa vie, c'est ce qui permet justement à quelqu'un qui connaît des choses, mais d'avoir le courage de les proposer et de les faire triompher, voyez. Et je crois que je pense que la volonté l'emporte toujours, même sur l'esprit. Que la volonté, disons, est peut-être l'essence même de la vie, que l'esprit est au service de cette volonté, vu comme bonne volonté, bien sûr. Et je crois que cet esprit, cette qualité de volontaire, je cite bien sur les termes, elle se remarque, Maître Chami l'a dit aussi, dans, disons, l'essor technique. L'essor technique, vous savez, tient beaucoup de la volonté, car il ne s'agit pas simplement de trouver quelque chose, d'avoir une intuition intellectuelle, de faire une découverte, mais il s'agit de l'organiser. Ce caractère, que je répète, volontaire, organique, voyez-vous, ceci est très attaché et très consubstantiel, si je puis dire, avec la République islamique d'Iran.
Merci.
Elle permet d'expliquer pourquoi, à travers des épreuves qui seraient très difficiles à supporter pour nous, votre patrie a pu subsister, disons, contre des guerres qui ont été imposées, contre des menaces, pas perpétuelles, des sabotages, des choses comme cela, des attentats même faits à l'intérieur de son pays. Je pense dernier, bien sûr, non seulement celui qui a coûté la vie au général martyr, mais en même temps à celui de monsieur, à celui du physicien.
Mais c'est Fakhrizadeh.
Vous voyez, tout ceci, oui, voilà, c'est une. Je crois que la capacité de surmonter les épreuves est également un trait de cette de l'Iran aujourd'hui, et que ceci lui a été permis, disons, consolidé par l'institution de cette république.
Merci beaucoup.
Mais cette république n'est pas du tout, comme on le dit ici, une dictature des mollahs, vous savez, dictature religieuse. Pas du tout. Elle est une présence de la religion. Alors qu'ici, on présente la religion, monsieur Norostine, de plus en plus dans l'enseignement, je le vois, comme, permettez-moi de le dire ici, une sorte de pathologie humaine, voyez-vous. Les prêtres, même chez nous, n'osent plus, y compris même les nouveaux imams, voyez-vous, ils n'osent plus défendre la religion comme telle. Voyez-vous, ils s'inclinent devant ce qu'ils appellent la République, qui est une institution maçonnique, anti-religieuse, voyez-vous, qui a été persécutrice, vous savez. La Révolution française a été une grande persécution des chrétiens. Et ensuite, nous avons persécuté les musulmans, bien sûr, cette même république lorsqu'elle s'est établie en Afrique du Nord. Eh bien, vous voyez, tout ceci fait que l'Iran, chez nous, apparaît comme une sorte de contraste. De contraste, voyez-vous, avec ces mauvaises institutions qui nous ont été imposées, voyez-vous, et qui n'ont pu subsister que par les malheurs et par les guerres.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur d'Ortiguet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'Union africaine a approuvé la candidature de l'Algérie au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2025, a indiqué le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. Les travaux de la 38e session du Conseil exécutif de l'Union africaine ont été clôturés par la validation de la candidature de l'Algérie au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025, a tweeté Boukadoum. Le Conseil exécutif a mis l'accent sur l'impératif attachement au principe fondateur de l'Union africaine, a ajouté Boukadoum dans son tweet cité par Algérie patriotique. Dans son intervention lors des travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre algérien des Affaires étrangères a affirmé que l'Algérie, fermement convaincue du principe de solidarité et du partage équitable des charges, est soucieuse de la concrétisation des objectifs du continent africain sur tous les plans, tient à s'acquitter à temps de ses contributions financières au budget de l'Union africaine et au Fonds pour la paix, indique dans un communiqué le ministère algérien des Affaires étrangères. Cette session a été consacrée à l'examen d'une série de rapports, dont celui relatif à la mise en œuvre de la stratégie continentale commune de lutte contre la COVID-19 et d'exposer sur les activités de différents organes de l'Union africaine au titre de l'exercice écoulé. Le Conseil exécutif s'est également penché sur le projet progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes structurelles de l'Union africaine. La 38e session du Conseil exécutif de l'Union africaine a été tenue, rappelle-t-on, en préparation des travaux de la 34e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu par visioconférence. Tunisie, le Parlement approuve le déploiement de missions militaires au Mali et en Centrafrique. L'Assemblée des représentants du peuple, le Parlement tunisien, a approuvé de cette mardi le prolongement de la mission relative au déploiement d'une unité de transport militaire aérien au Mali ainsi que l'envoi d'une unité d'hélicoptères en Centrafrique sous la bannière de l'Organisation des Nations Unies. On a pris auprès du Parlement tunisien. Pour ce qui est de la première décision, elle a été approuvée par 113 de votes favorables, un vote contre et 5 abstentions. Cette mission s'inscrit dans le cadre du soutien fourni à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Quant à la seconde relative à l'envoi d'une unité d'hélicoptères en Centrafrique, elle a de juillet de 110 voix favorables, 2 contre et 4 abstentions. Cette mission sera déployée dans le cadre du soutien à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. La dite unité serait chargée des missions d'intervention d'aide aérienne, l'accompagnement aérien armé, la recherche et le sauvetage, d'autant plus qu'elle assurerait également la sécurisation et l'escorte des déplacements, la reconnaissance aérienne, l'évacuation sanitaire dans le cadre des missions attribuées à la MUNISCA. À noter que la Tunisie a participé depuis 1960 avec des unités militaires armées à 23 missions de maintien de la paix de l'ONU dans plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, le Soudan et la République centrafricaine ainsi que le Mali. L'ONU salue l'accord conclu par le Forum de dialogue politique libyen. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a salué l'accord conclu par le Forum de dialogue politique libyen et l'a considéré comme une étape importante dans le processus politique en Libye. Dans un communiqué potentiel, le Conseil se félicite de l'accord atteint par le Forum de dialogue politique libyen sur une nouvelle autorité exécutive intérimaire unifiée et qui est chargée de conduire le pays aux élections. Des pourparlers sous l'égide de l'ONU auraient abouti vendredi à la création d'un nouveau gouvernement intérimaire pour la Libye dans le but de mettre fin à une décennie de chaos, de division, de violence en organisant des élections nationales dans le courant de cette année. Le Conseil a appelé toutes les parties à mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 dans son intégralité, a exhorté les pays membres à respecter et soutenir sa mise en œuvre complète, y compris par le retrait de toutes les forces étrangères et des mercenaires de Libye sans plus tarder. Il a rappelé au respect total de l'embargo sur les armes par de tous les pays membres, conformément à ses résolutions pertinentes selon le communiqué. Le Conseil de sécurité réaffirme son engagement résolu à l'égard du processus politique mené et dirigé par la Libye et facilité par l'ONU, ainsi qu'à l'égard de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la Libye selon la même.
L'Union africaine, préoccupée par le double fardeau Ebola, Covid-19 sur le système de santé africain. La Commission de l'Union africaine s'est inquiétée du double fardeau qui pèse sur le système de santé en Afrique en raison d'une nouvelle épidémie d'Ebola et de la pandémie de nouveau coronavirus qui fait toujours rage. Via le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDD Afrique, elle a dit avoir entamé des discussions avec la République démocratique du Congo sur la manière de soutenir sa réponse à la 12e épidémie d'Ebola déclarée officiellement dimanche dans la région de Butembo, située dans la province du Nord Kivu. Le CDC Afrique reconnaît la charge que représente la réponse à cette nouvelle épidémie tout en répondant à la pandémie de nouveau coronavirus, a déclaré l'Union africaine, ajoutant que la pandémie à elle seule a fait payer un lourd tribut au pays et a déjà mis à rude épreuve des systèmes de santé dans le monde entier. Elle a également souligné que le CDC Afrique apportera un soutien supplémentaire en déployant des intervenants rapides pour effectuer des tests de laboratoire, rechercher et suivre les contacts, prévenir et contrôler l'infection, communiquer sur les risques et mobiliser les communautés. Un troisième cas d'Ebola a été confirmé dans la zone de santé de Butamba, province du Nord Kivu de la République démocratique du Congo, selon l'annonce faite par le ministre provincial de la santé, selon Eugène Nzanzou, ministre de la santé provinciale du Nord Kivu. La victime est une fille de 22 ans présentant un lien familial avec le premier cas positif décédé. La fille est encore vivante sous traitement dans le centre de traitement de Katwa, a-t-il précisé. Les sources de l'Organisation mondiale de la santé, OMC, affirment avoir déployé une équipe supplémentaire sur place à Butembo pour appuyer l'équipe de la riposte locale pour le traçage de contacts de malades afin de débuter une première phase de l'opération de vaccination. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.